Bienvenue dans Tribulation et Résilience, le podcast qui explore le fonctionnement humain avec Katia Jouvin. Je suis Katia et avant d'exercer en tant que psychopraticienne ou coach, j'ai vécu sous stress chronique sans en avoir conscience. J'ai trouvé la voie vers une vie plus calme et sereine en donnant un sens à mes mots MAX, en me reconnectant à mes sensations corporelles et en laissant mon mental au second plan. Tribulation et Résilience est le podcast dédié à ceux et celles qui se sentent emportés par la course effrénée de la vie moderne, cherchant des réponses pour rétablir l'équilibre et la sérénité dans leur quotidien, conscients que les solutions résident à l'intérieur d'eux. Alors, si tu aspires à reprendre les commandes pour vivre de manière plus équilibrée et épanouie, ce podcast est pour toi. Je te retrouve un mercredi sur deux, en solo ou accompagné, pour explorer des pistes te permettant d'accéder à plus de calme et de sécurité à l'intérieur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas être seule. Je serai accompagnée d'un invité qui a accepté de partager son histoire, d'accepter de partager un moment de sa vie. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode en compagnie de Arnaud. Après 3 années d'études en graphisme, Arnaud intègre une société au sein de laquelle il va vivre ses premières expériences professionnelles et notamment un licenciement économique. À la suite de ce licenciement, il rebondira en se lançant comme freelance dans le graphisme, expérience qui va lui permettre de prendre conscience que l'aspect commercial de ce statut ne lui parle pas. Arnaud, il aime répondre aux besoins clients, mais pas nécessairement les démarcher. De cette nouvelle expérience, il rebondira à nouveau dans le cadre d'une mission d'intérim en tant que retoucheur photo au sein d'une entreprise de e-commerce qui l'embauchera finalement en CDI. N'aimant pas le travail répétitif et rébarbatif, Arnaud va savoir utiliser ses talents et ainsi développer et amener au service dans lequel il se trouve une expertise au niveau des process et outils. C'est comme cela qu'il va intégrer petit à petit l'univers des projets d'entreprise. Domaine d'activité qui va particulièrement lui plaire, au point de décider de faire une formation longue dans le but d'obtenir une certification. Après avoir obtenu sa certification, il réintègre cette entreprise et rejoint une équipe de projet pendant 6 ans. En novembre 2021, il vit un tsunami intérieur. Le diagnostic est posé, burn-out. La vie met Arnaud sur un chemin qui va nécessiter qu'il prenne le temps de retrouver de l'énergie et le sens qu'il veut donner à sa vie. Avec Arnaud, nous allons parler dans cet épisode du burn-out parce qu'il me semble que c'est important de sensibiliser le plus grand nombre et faire que ce sujet ne soit plus un tabou. Nous allons voir avec Arnaud comment il en est arrivé à cette situation, qu'est-ce qu'il a mis en place pour s'en sortir et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Bonjour Arnaud, bienvenue. Merci d'avoir accepté de parler de ce sujet et de montrer ta vulnérabilité à nos auditeurs.
Bonjour Katia, merci de me recevoir et je vais essayer de faire au mieux.
T'inquiète, ça va très très bien se passer. Alors, avant de rentrer dans le sujet, Arnaud, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu te qualifies en tant que personne et aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire quels sont pour toi les qualificatifs que tu te donnes, notamment au niveau professionnel, et qui peuvent être aussi correspondre à toi en tant que personne au quotidien?
Alors, question très compliquée. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis quelqu'un qui est énormément d'estime de moi et de confiance en moi, ce qui ne s'est pas arrangé ces derniers temps. Donc c'est vrai que j'ai du mal, mais je vais vraiment quand même essayer de jouer l'exercice, mais j'ai du mal à me trouver des qualités ou tout ça, mais vu que j'ai quand même fait l'exercice récemment, je vais essayer. Donc, moi, je suis plutôt une personne, bon, déjà anxieuse, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut vite s'inquiéter et qui, justement, et on risque d'en parler, qui a énormément de problèmes avec l'échec. Je n'aime pas me planter, je suis perfectionniste. Et donc, dans la vie professionnelle, ça peut très, très vite être challengeant. Et justement, ça peut réveiller une anxiété qui va faire qu'à un moment, bah, ça pèse et ça nous amène à des états pas top, genre pas forcément dormir ou cogiter toute la nuit, etc., etc. Donc c'est pas, voilà. Alors c'est pas un truc qui m'arrive hyper souvent non plus, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est pas génial. Ça s'est amélioré quand même par rapport au début de ma carrière, mais je sais pertinemment que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je suis aussi conscient que ça risque pas de changer du jour au lendemain et peut-être que je vivrai toujours avec ça. À côté de ça, par contre, voilà, du fait que je suis perfectionniste, je suis quelqu'un qui aime vraiment faire les choses jusqu'au bout. Et c'est ce qui a aussi posé problème dans ma dernière mission. Et par contre, je suis quelqu'un aussi qui peut vite se lasser. Et mon parcours professionnel le prouve un peu. Mais du coup, comme je m'intéresse à plein de trucs, du coup, eh bien, justement, à un moment, je vais faire un truc, puis je vais me dire, j'ai plus envie. Typiquement, voilà, j'étais graphiste, et graphiste, bah, quand j'étais graphiste, j'étais content parce que j'étais planqué derrière mon écran et j'avais juste à faire aux commerciaux, au marketing, à mon service, et puis c'était très bien. Sauf qu'à un moment, justement, quand je suis rentré dans l'autre société que tu as mentionné, le site d'e-commerce, bah, je me suis aperçu, justement, et notamment par le projet, mais pas que, par l'expertise que j'avais pu avoir, que j'aimais, en fait, le lien social. Et j'aimais bien rendre service aux gens et aider les gens. Et justement, c'est ça qui m'a amené à la gestion de projet, puisque je trouvais que c'était à la fois plus vers l'humain, mais en plus, ça me permettait de, théoriquement, de ne plus être vraiment lassé, puisque quand un projet se termine, il y en a toujours un autre. Et... Sauf que, alors, la réalité, c'est que j'ai fait 6 ans, presque 6 ans dans ce produit. Alors, je ne pouvais pas me lasser, parce que le truc, il était tellement énorme que c'était difficile de se lasser. Par contre, il y avait tellement de trucs que mon côté perfectionniste était très, très, très perturbé parce que je ne pouvais jamais rien finir. Et ça, pour plein de raisons. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai complètement changé, puisqu'aujourd'hui, j'ai quitté mon entreprise, hein, pour être tout à fait honnête. On verra plus tard, je ne sais pas. Et là, je suis en train de construire un nouveau projet pour m'orienter vers du coaching, pour être encore plus près de l'humain. Justement pour essayer d'accompagner des gens qui sont pas forcément super ou qui, voilà. C'est en cours de définition, j'ai pas encore tout à fait le, mais j'ai une formation qui est censée débuter à la rentrée.
Merci pour cet éclairage. Donc, plutôt quelqu'un d'anxieux à la base et de perfectionniste par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que tu es quelqu'un de très impliqué parce que le perfectionnisme va souvent avec l'implication, la grande implication dans le travail et le besoin aussi de reconnaissance. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Alors complètement et avec les deux. Je vais commencer par le besoin de reconnaissance parce que et là pour le coup tu voulais de l'authenticité, tu vas en avoir, mais en gros si tu veux j'ai grandi dans une famille très toxique avec un père alcoolique et violent psychologiquement mais aussi parfois physiquement et du coup en plus de par leur éducation mes parents ne m'ont jamais montré de signe d'affection. En fait, pour la simple et bonne raison, enfin, en gros, pourquoi je te dis ça, c'est tout simplement parce que j'ai compris que j'étais pas anormal avec ma première vraie copine qui m'a appris ce que c'était l'affection, ce que c'était l'amour, d'être aimé et d'aimer, etc., etc., d'être câlin, etc. Mais de par cette construction-là, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai besoin de reconnaissance, énormément. Et j'ai tellement besoin de reconnaissance que justement, je suis même pas capable d'évaluer moi-même mes qualités. C'est-à-dire, j'ai forcément besoin des autres pour savoir si je me trompe pas, parce que j'ai quand même une idée de mes qualités, mais je vais en oublier, je vais douter, parce que c'est pareil, je suis aussi très habité par le doute. Et donc oui, c'est vrai que même si c'est pareil, j'essaye depuis quelque temps, bah, notamment avec tout ce qui m'est arrivé, de moins dépendre de ça, mais je suis effectivement très très concerné par ça. Ensuite, le premier point, je l'ai complètement oublié, c'était ah oui, l'implication. Alors oui, je suis quelqu'un, alors j'étais quelqu'un de très très impliqué jusqu'en 2019, on va dire, enfin 2020, je vais t'expliquer. Avant, donc dans mon ancien travail, j'étais tellement impliqué que déjà je commençais plus tôt et je finissais plus tard, tout le temps. Et quand je dis finir plus tard, des fois je partais alors que j'étais censé faire 9h, 17h30, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'arrivais toujours à 8h, voire avoir le temps de prendre mon café, nanana, mais de pouvoir, dès qu'il est 9 h, avoir commencé à bosser. Mais le soir, ça m'est déjà arrivé même de rester jusqu'à 21 h. Et de bosser chez moi. Alors qu'à l'époque, j'étais employé. Ensuite, justement, dans la première partie de mon travail, pour le site d'e-commerce, j'étais aussi très, très impliqué. Alors, c'est pareil, je ne regrette pas, puisque c'est ça qui m'a amené là où je suis allé après, parce que c'est cette implication qui m'a fait me faire remarquer par des gens dans l'entreprise, et si, c'est ce qui a fait qu'à un moment, on m'a demandé de bêta-tester des logiciels, de faire des rapports, et puis que je commençais à devenir expert, voilà. Donc, j'aurais pas été aussi impliqué, c'est pareil. Le problème, c'est que même si c'est pas le seul facteur, mais cette implication a quand même fortement joué, en tout cas, en partie, sur un problème de relation avec une de mes ex. Mais il n'y avait pas que ça. Mais toujours est-il que, donc oui, mais à partir du moment où j'ai fait ma formation de chef de projet, j'ai aussi découvert le développement personnel, la spiritualité et tous ces sujets. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de réguler ma vie. Alors, je dis réguler ma vie parce que j'ai vraiment essayé, et notamment j'ai été suivi à l'époque aussi par une naturopathe, et donc j'ai essayé de régler à la fois tout ce qui était santé physique, par l'alimentation, par des rituels par l'activité sportive par exemple, mais aussi donc le bien-être, donc la méditation, les huiles essentielles, le sommeil aussi, parce qu'avant j'étais quelqu'un qui considérait qu'il pouvait dormir 6 heures à peu près, que c'était 6 heures son temps sa durée de sommeil optimale. Et donc par contre voilà, souvent ce que je faisais, c'est que je me couchais des fois jusqu'à 3 heures du matin. Enfin non, je me couchais à 3 heures du matin et bah, je me réveillais donc à 6 ou 7 heures selon quand j'étais dans l'entreprise. Et puis bah, je compensais à un moment, le lendemain j'allais me coucher un peu plus tôt, mais c'était rarement avant minuit. Maintenant, à partir de là, j'ai commencé à me coucher à une heure précise, à arrêter les écrans avant et à dormir comme un bébé. C'est pour ça que franchement, ça c'est une routine que j'ai, alors on en parlera peut-être, que j'ai un peu perdue pendant 2 ans à cause de tout ce qui m'est arrivé, mais qui est en train de revenir. Et ça c'est bien, ça fait du bien. C'est aussi pour ça que depuis 3, 4 jours, j'ai l'impression que ça y est. Je crois que j'ai retrouvé à peu près la vie que j'avais à l'époque, avant que tout ça n'arrive. Et donc, il y a aussi un autre élément, j'ai oublié, mais en gros, voilà, donc bien-être physique, bien-être mental. Et donc, c'est à partir de là, justement, que j'ai dit, je fais mes heures et je vais éviter la surimplication. Alors, ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire que j'ai réussi à maintenir le truc. Même en étant chef de projet, alors que quand je suis devenu chef de projet, j'étais cadre. Donc ça pouvait m'arriver de rester, mais ça restait occasionnel. Voilà. Et des fois, ben, je me permettais de partir aussi de travailler chez moi, mais c'était vraiment exceptionnel. C'était plus quand, par exemple, je devais faire un transfert, je préférais, ben, dire le transfert il sera fait dans 1 heure, rentrer chez moi et faire le transfert de chez moi. Voilà. Et ensuite, ben voilà, c'est quelque chose que j'arrive mieux à gérer aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'il y a quand même un risque. Parce que, de par le fait que je suis perfectionniste, je sais, enfin, il y a de fortes chances que je continue quand même à avoir une trop forte implication dans le travail. Et comme là, en plus, mon idée, c'est quand même à un moment de me mettre à mon compte en libéral, j'ai un peu peur. Mais on verra. Il faut essayer. Et puis, je veux essayer aussi parce que l'expérience de freelance, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est différent, et puis c'est pareil, je vais pas avoir, enfin, même s'il va bien falloir démarcher, déjà d'une, j'ai pas l'intention de m'y prendre de la même façon, je vais me faire aider aussi, j'ai pris plusieurs programmes pour me faire aider. Voilà. Donc, je vais faire les choses différemment, et j'espère vraiment que je réussirai.
Ok, bah, je te le souhaite en tous les cas. Justement, tu parlais de cette routine-là que tu avais commencé à mettre en place quand tu as commencé à te former pour obtenir la certification de chef de projet et que tu as découvert le développement personnel, la spiritualité, etc. Donc, tu as mis en place on va dire, cette hygiène de vie, mais est-ce que tu as réussi à la tenir? Parce que j'ai le sentiment, à travers de ce que tu nous disais, qu'en gros, T'as réussi à la tenir au début et puis il y a eu un moment donné où c'est parti un peu à volo et qu'aujourd'hui tu la remets en place. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre?
Alors oui et non, parce que j'ai l'impression que tu as compris, en fait, que tu as compressé le temps. Donc je vais juste essayer de donner des dates, ça donnera une idée. Parce que donc ma formation de chef de projet, c'était en 2014-2015, donc horaire scolaire. Hein. Donc je crois que c'était septembre à mars, puis un stage en avril, si je fasse 17 mois, quoi. Et c'est justement à cette époque-là, parce que je sortais, c'est pareil, ça m'arrive souvent, j'ai l'impression, je sortais d'une rupture très compliquée, mais sauf que quand on a rompu, j'étais chez elle et je fais ma race, quoi, qu'elle me mette dehors. Surtout que là, c'était très compliqué. Parce que pour être tout à fait honnête, j'ai des problèmes de colère de par mon enfance. Et le problème, c'est que justement, quand une situation me paraît injuste, ou qu'un conflit dure beaucoup trop, en gros, à partir du moment où ça me fait monter dans les tours, je peux très vite aller dans la colère. Et cette personne-là avait l'art, de par sa violence qui pouvait être physique, à me rendre également violent. Et je suis pas fier de ça, hein, pas du tout. Je préfère juste le dire parce que ça fait partie de mon histoire et c'est quelque chose que je travaille aujourd'hui. Typiquement, par exemple, celle qui a suivi, donc mon ex, enfin, la vraie ex. Enfin, la dernière en date, on va dire. Je pouvais être violent par les propos, pouvais être un petit con, c'est un peu comme ça que je l'appelle, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est mon enfant en fait intérieur qui d'un seul coup se rebelle comme si c'était son père en face de lui. Mais quand une situation est injuste, donc elle doit avoir un rapport avec la blessure de l'injustice, j'imagine. Mais toujours est-il que effectivement, je ne l'ai jamais touché. Par contre, ça m'est arrivé moi de me taper dessus. Mais par contre, je l'ai jamais touché, donc parce qu'elle ne m'a pas non plus touché. Maintenant, voilà, j'ai complètement perdu le fil, mais je vais essayer de le retrouver. C'était quoi la question déjà? Attends.
Non, je disais, on était parti sur ta routine bien-être, où tu voulais reposer un peu le cadre au niveau d'une temporalité, parce que oui, je l'ai peut-être fait en raccourci, mais l'idée derrière, en fait, c'est de bien comprendre, est-ce que cette routine que tu avais commencé à mettre en place, tu as pu la maintenir sur la durée jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que finalement, il y a eu une rupture, on va dire, de cette routine, c'est-à-dire que tu es revenu peut-être dans ton ancien mode de fonctionnement et qu'aujourd'hui ou depuis quelque temps, tu retrouves cette routine.
Alors oui, merci d'avoir répété la question. Alors ça risque d'arriver souvent parce qu'effectivement, en général, je pars dans tous les sens et j'oublie le sujet. Maintenant, effectivement, donc alors 2014-2015, c'était la formation, c'est là que je découvre en même temps le dev perso, la spiritualité, certaines pratiques. Et donc je commence, la première pratique que je mets en place, déjà, c'est d'essayer la méditation et la cohérence cardiaque. Donc j'essayais à l'époque, donc ça c'est le début, hein, mais j'essayais de faire ça matin, midi et soir, grosso modo. Soit l'un, soit, enfin, soit méditation, soit cohérence cardiaque. Ensuite, juste après, enfin, quelques temps après, donc ça, c'est plus fin 2015, début 2016, courant 2016, c'est là que je vois une naturopathe qui va me suivre pendant plusieurs années, et c'est elle qui vraiment va vraiment me faire mettre des routines dans ma vie. Donc ça commence par un truc horrible que justement j'essaye de refaire aujourd'hui, qui est l'arrêt du café, parce qu'il faut savoir que d'une, je n'ai pas besoin de café. Pour me réveiller, en fait, il y a des gens, ils ont la tête dans quelque part, quoi. Et pour se réveiller, ils ont besoin du shot de café. Moi, j'en ai pas besoin, en fait. C'est-à-dire que je suis speed dès que je me réveille. Ça ne sert à rien, en fait. Par contre, ça me retourne le bide. Donc c'est pas bon. Et donc, il faut que j'arrête le café, mais à chaque fois que j'ai arrêté le café, et je l'ai tellement arrêté ces dernières années que je sais, que je vais avoir 3 à 7 jours de migraine horrible quand je vais arrêter le café. Donc là, je suis en réduction et je vais y venir. Et donc, oui, il y avait ça, il y avait donc les heures de coucher fixes, le rituel de la lecture, parce que c'est pareil, je lisais aussi beaucoup, donc je lisais le soir avant de me coucher, histoire de faire redescendre les nerfs, enfin, voilà, comment dire, mon speed mental, j'ai pas le mot, mais la moulinette, quoi, le hamster dans la tête. Et aussi pour laisser le corps s'apaiser. Et donc la durée de sommeil fixe, et puis le sport, l'alimentation, les graines germées, enfin tout un tas de choses comme ça. Et ce cette routine. Donc, j'ai mis en place entre fin 2015 et courant 2017, 16, pardon. Eh bien, je l'ai maintenue jusqu'à ce qui arrive, enfin, jusqu'à novembre 2021. C'est juste qu'il y a eu parfois des fluctuations. Ça n'a jamais été parfait. Je vais donner un exemple. Donc, juste après que j'ai rencontré la naturopathe, elle s'est aperçue que j'étais hyper volontaire et hyper procédurier, comme dans le travail, en fait. Et du coup, à la deuxième séance, elle s'aperçoit que tout ce qu'elle m'avait dit de mettre en place, c'est bon. Alors que c'était un mois, je crois, un truc comme ça. Et donc, bah là, elle comprend que, OK, donc, je peux le saucer. De toute façon, il va le faire. Aujourd'hui, je n'arrive plus. Je précise, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à être aussi volontaire et rigoureux. Mais on y reviendra. Et donc, du coup, ça, je l'ai gardé jusqu'en octobre 2017, qui est la date exacte à laquelle, enfin non, c'est pas une date exacte, mais qui est le mois où, enfin pendant lequel j'ai été recruté comme chef de projet. Parce qu'avant, en fait, mes supérieurs me donnaient des petites missions, des audits de services à faire pour optimiser les logiciels, etc. Mais j'étais pas officiellement chef de projet. C'est vraiment en octobre 2017 que là, quelqu'un vient me chercher et me dit, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Est-ce que tu veux bien? Mais oui. Et franchement, ça a été une super expérience. Sauf que donc, en même temps, ce mois-là, je fais aussi de l'hypnose au mois de septembre, donc le mois d'avant. C'est assez drôle parce que quand je fais l'hypnose, je voulais améliorer ma confiance en moi. Sauf que c'est un peu vague. Et mon idée inconsciente, c'était surtout que j'aimerais bien enfin réussir à trouver un poste de chef de projet. Et j'aimerais bien, après 3 ans et demi, enfin, après 3 ans, on va dire, me remettre en couple parce que, enfin, en tout cas, retrouver quelqu'un parce que je trouvais que, ouais, ça allait, j'étais prêt. Eh bien, je ne sais pas si ça a un rapport, mais toujours est-il que moi, j'y ai cru sur le moment. Un mois après, donc en octobre 2017, j'ai donc ce poste qui m'est proposé, donc je commence ma période d'essai et je commence à sortir avec mon ex le soir d'Halloween. Donc un mois après, ce que je voulais inconsciemment un mois avant se passe. Génial. Et donc là, eh bien, évidemment, devoir gérer un poste qui, parce qu'avant, j'étais, il faut quand même le dire, j'étais plus vraiment expert parce que depuis mon retour de formation, bah, j'avais laissé des procédures et tout, donc tout le monde s'était autonomisé là-dessus. Donc j'avais retrouvé mon travail de retoucheur, à part les petites missions qu'on me donnait. Mais voilà, c'était genre j'allais être missionné pendant une semaine, après pendant 2 semaines, j'allais continuer la retouche. Mais j'étais exécutant, c'est-à-dire que c'est pareil, je faisais mes heures. Et là, je passe donc de exécutant employé genre 9h, 18h, à la cadre. Ben avec des responsabilités, avec de la pression, et puis avec, ben, je suis cadre, donc s'il faut rester, faut rester. Si on a un incident en production, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour chapeauter tout ça. Et donc à partir de là, ça a été un peu dur à gérer. Et quand j'ai commencé aussi ma relation, ben ça plus ça, ouais, il y a eu une fluctuation, mais j'ai quand même réussi à maintenir les routines. C'est juste qu'il a fallu que je fasse des concessions. Je mets des guillemets parce que je suis pas tout à fait certain que c'était des concessions, c'est plus de l'adaptation en fait. Maintenant, effectivement, j'ai maintenu ça. Et j'ai maintenu ça jusqu'au confinement, où là, ça a été encore plus simple. Parce que du coup, contrairement à plein de gens, je sais qu'il y a plein de gens qui ont très très mal vécu le confinement. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que déjà, on a eu un super temps. Du coup, ben, on passait, enfin voilà. Et puis j'avais mon ex qui vivait à la maison, qui s'est retrouvé confiné avec moi. On mangeait sur la terrasse. Enfin, c'était juste extraordinaire. Et du coup, le fait justement de bosser chez moi, ça me permettait aussi d'avoir des routines encore plus clean entre guillemets. C'est juste En fait, je pense honnêtement, mais peut-être que ça, ce sera l'autre question. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Voilà. Mais en gros, c'est en novembre 2021, c'est début 2021, où là, je commence déjà à être saoulé par mon taf, par mon travail, et j'arrête de fumer. Malheureusement, j'ai repris depuis un mois. Mais j'arrête de fumer. Et là, bah, forcément, c'est pareil. Même si j'arrête de fumer du jour au lendemain, sans me faire aider, ni rien du tout. Stress, je prends 4 kilos en à peu près 6 mois. Et donc là, j'essaye de me rajouter des routines. Donc au lieu de faire du sport une fois par jour, le soir, j'en fais aussi le matin. En gros, je me bourrine la tronche. Et alors, je dis ça parce que ça, pour moi, c'est l'arrêt de la cigarette, c'est un des facteurs qui a fait que 6 mois plus tard, je pète les plombs. Le fait de m'ajouter tout ça, je sais que ça fait aussi partie des trucs qui m'ont fait péter les plombs à la fin. Mais je pense qu'on y reviendra. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question.
Oui, de façon très détaillée, mais je pense que tu as besoin aussi d'aller dans le détail et la précision. Ça doit être un mode de fonctionnement chez toi qui est comme ça et c'est OK. Il n'y a pas de jugement de ma part du tout. La question que j'ai envie de te poser pour entrer vraiment dans le vif du sujet du burn-out, justement, et tu as commencé à l'effleurer là il y a quelques secondes, c'est comment s'est manifesté chez toi le burn-out? Quels ont été, on va dire, les symptômes ou les signes de ce burn-out. Et finalement, est-ce que le burn-out a été diagnostiqué par un médecin ou est-ce que c'est toi qui as estimé que tu étais en burn-out?
Alors, pour le coup, au niveau du diagnostic, aucun médecin ne m'a identifié, ne m'a diagnostiqué de burn-out, mais c'est avec le recul, parce qu'en fait, j'en parlerai plus tard, mais on m'a, par contre, quelques temps après, on m'a diagnostiqué une dépression modérée, je crois. Mais par contre, c'est quand j'ai découvert le burn-out que je me suis intéressé à ça et que je me suis dit ça ressemble quand même à ce que j'ai vécu. C'est pour ça que pour moi, et ça n'a jamais été validé par un psychiatre, mais en même temps je lui ai pas posé la question non plus, hein. Mais pour moi c'est parce qu'il y a eu le burn-out que ça m'a fait tomber tellement bas qu'après j'étais en dépression. Maintenant, alors la question c'était quels étaient les symptômes? Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait, bah déjà, j'ai déjà dit, j'étais anxieux. Enfin, je suis anxieux de base, mais c'était pire encore, puisqu'en fait, comme je le disais dans la question d'avant, je commençais à en avoir marre de mon boulot parce que, en fait, le problème, c'est que bah, quand tu es dans la gestion de projet, mais que, en fait, tous les trimestres, limite, voire tous les mois, j'exagère en disant tous les mois, mais ça pouvait arriver, tes priorités changent, bah, tu finis jamais ce que tu commences. Typiquement, par exemple, en 2020, toute l'équipe, on avait passé 6 mois à préparer un nouveau logiciel, donc on avait tout prêt, hein. On avait juste à faire le lancement en début de 2021, et tout était prêt. Ben, on nous dit déprioriser. Et quand j'ai quitté ma boîte, il y a 3 mois maintenant, ce truc était toujours dans les cartons. Et par contre, à côté de ça, on te dit oui, alors il faut rajouter un pays dans notre système d'information, alors que notre produit, parce qu'en fait c'était de l'organisation agile, donc en mode produit, notre produit gérait les outils en prod et avait aussi la mission de construire leur remplaçant justement pour donc une sorte de cloud, etc. Et voilà, des toutes plus nouvelles technologies. Et le problème, c'est qu'on avait un système vieillissant qui allait nous péter la figure. Et là, plutôt que justement de mettre en prod ce nouveau logiciel qui aurait été une brique dans le nouveau système, ben on nous dit non, rajoutez encore un pays d'Europe dans notre système d'information qui va nous péter à la tronche. Ben forcément, quand tu as une bouteille qui est pleine, à un moment, il faut arrêter de mettre de l'eau dedans. Bon, ben voilà, tout ça a fait que forcément, déjà, mon anxiété a été impacté. Je pense que l'arrêt de la cigarette n'a pas aidé, ce que je disais. Et puis, justement, j'ai aussi commencé à avoir de plus en plus de phases de tristesse, je vais dire, parce que je voulais dire nostalgique, mais non, c'était tristesse. Justement, c'est exactement ce qui est arrivé le fameux week-end où je pense avoir vécu ce burn-out. Il y avait des phases typiquement où quand je voyais ma copine, tout allait bien. Quand je voyais mon ex, mais c'est ma copine à l'époque, tout allait bien. Et des fois, elle partait le dimanche après-midi. Et dès qu'elle partait, je me retrouvais seul avec moi-même et j'étais pas bien. Et puis j'allais au travail à reculons. Et c'est aussi pour ça que justement, je commençais à me dire, ouais, je pense que je vais quitter ce travail, même si c'est très dur pour moi, parce que c'est un truc qui est très dur pour moi en fait, vu que j'ai du mal à me connaître mes qualités, j'ai donc du mal à me vendre, et donc j'ai toujours peur de ne pas réussir à retrouver un travail. Même quand tous les autres autour me disent, non mais t'as tout ce qu'il faut, machin, mais pour peu qu'à un moment je revienne dans le doute et bam, il y a tout qui tombe. Donc pour ça, c'est très challengeant là, ce que j'ai fait dernièrement, de quitter mon travail, etc. Mais je vais essayer jusqu'au bout. Et suite à ça, je me suis dit, oh tiens, j'ai mon CPF qui a atteint le plafond, j'ai pas forcément envie que je cumule plus rien. Donc, je vais utiliser mon CPF partiellement pour faire une mise à jour des réseaux sociaux, une formation de mise à jour des réseaux sociaux. Parce que comme ça, je me disais, ça va me permettre de pouvoir mieux utiliser les réseaux sociaux pour commencer à me vendre, entre guillemets, pour à un moment me mettre en recherche active sur LinkedIn notamment.
Donc
Et
en
donc,
fait,
bah justement.
alors toi, excuse-moi, je t'interromps du coup, mais du coup, dans la manifestation de ton burn-out, j'ai compris qu'il n'y avait pas eu de diagnostic de posé en tant que tel, mais que par la suite, on t'a diagnostiqué une dépression, etc. Puis tu nous en parleras certainement par la suite. Mais du coup, dans les symptômes ou les signes du burn-out, c'était une anxiété encore plus présente. Une envie de ne pas aller au boulot ou une espèce de boule au ventre, peut-être, d'aller au boulot. Parce que tu sais, quelquefois, on entend aussi dans le burn-out, alors ce n'est pas valable pour tout le monde, parce qu'en fait, chacun vit les choses en fonction de lui, donc il n'y a pas de règle définie pour moi dans le burn-out. Mais est-ce que toi, il y a eu un matin où tu n'as pas pu te lever? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, quelles ont été, au-delà de l'anxiété, au-delà de te dire, je suis pas bien dans mon boulot, je vais peut-être faire une formation complémentaire pour anticiper déjà le fait de partir, etc. Est-ce qu'il y a eu des symptômes physiques? Est-ce qu'il y a eu des symptômes émotionnels? Est-ce qu'il y a eu des pensées particulièrement récurrentes qui t'ont amené à manifester cet état de burn-out?
Oui. Justement, mais c'est pour ça, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai tendance à vouloir aller dans les détails, je parle beaucoup. Mais effectivement, c'était juste pour poser le cadre que, donc, du coup, alors, à partir de l'été 2021, du coup, je fais du sport 2 fois par jour, j'ai le travail, j'ai donc ma vie privée à gérer, et en plus, je m'ajoute une formation. Donc, ça veut dire que le soir, en mode cours du soir, et donc, je travaille chez moi. Pour moi, par contre. Et donc, ben, ça a commencé justement à faire beaucoup. Et je commençais justement à me désengager de plus en plus de mon travail. Je commençais à avoir de plus en plus la boule au ventre et pas envie d'y aller. Mais j'ai aussi commencé à avoir des troubles du sommeil, justement. C'est-à-dire que je faisais de plus en plus, alors pas forcément d'insomnie, mais en tout cas d'insomnie partielle, on va dire. Soit je mettais 3 heures ou 4 heures à m'endormir, soit je dormais 2 heures, je me réveillais, j'arrivais plus à dormir de la nuit. Il y a eu aussi, alors ça c'est un truc, enfin, pour moi ça a empiré, mais je suis migraineux déjà de base. Maintenant, et comme je le disais tout à l'heure, en plus dès que j'arrête le café, je suis sujet à quelques jours de migraine. Et c'est vrai que c'est pareil, j'avais de plus en plus de migraines à cette époque-là. Donc en 2021, j'en ai vraiment eu pas mal. Ensuite, justement, c'est pareil, enfin, à part avec mon ex, j'étais pas hyper, hyper à l'aise. Alors, je suis pas déjà à l'aise de base dans les relations sociales, même si je sais très bien m'adapter, mais là, j'avais pas envie. C'était plus, voilà, j'étais très heureux de voir ma copine à l'époque. Mais c'était tout, c'est-à-dire que enfin, les sorties c'était limité, j'étais pas forcément super content, j'ai même annulé certains trucs. Et oui, c'est pareil, j'ai aussi commencé à avoir de plus en plus, enfin, je pense à c'est pareil, autant en 2020, vraiment pendant le confinement, notamment avec mon ex, il y avait quand même une relation hyper saine. Alors qu'en 2021, c'est pareil, il y avait de plus en plus de conflits, je pense que j'étais peut-être devenu irritable, plus agressif qu'avant, je laissais moins de choses passer, enfin voilà, j'étais plus facile à trigger, j'ai envie de dire. Et ensuite, même si, alors c'est pareil, c'est comme la migraine, tu vois, c'est quelque chose que j'ai déjà, mais j'ai l'impression que c'était exacerbé et que c'est encore le cas aujourd'hui, j'avais vraiment des problèmes de concentration. Mais déjà, j'ai des problèmes de concentration de base parce que je vais dans tous les sens, tout le temps. Mais dans le cadre du travail, par exemple, j'arrivais quand même à travailler 3 ou 4 heures sur le même truc, quoi. Et je m'étais même prouvé après avoir arrêté de fumer que j'étais même capable de rester 3 ou 4 heures sur le même truc sans faire de pause. Ça, c'est pas top. Mais là, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai énormément de mal à avoir et à arriver à tenir un truc plus d'une heure. Honnêtement, au bout d'une heure, à un moment, faut que je sorte, ou je vais vite être sollicité. Enfin, à la moindre sollicitation, je vais m'éparpiller. Donc voilà un. Et il y a eu, alors ça aussi, c'est important que je le mentionne. J'ai commencé aussi à avoir, pour moi, c'était pas que de mon fait, mais j'ai commencé quelques semaines avant que ça arrive à me sentir harcelé au travail par deux de mes collègues. J'en avais parlé à ma manager de l'époque, à qui enfin, je lui jette pas la pierre. Elle m'a juste dit non mais laisse-les dire, j'ai bien vu, je suis d'accord avec toi, c'est pas clean ce qui enfin comment ils te parlent et la façon dont ils disent, mais soit tu les recadres, soit tu les laisses dire, mais te laisse pas influencer par eux. Parce que si tu rentres dans leur jeu, ça va empirer, il faut pas. Donc voilà. Et le problème, c'est que ça s'est aggravé, en fait. Le sentiment de harcèlement jusqu'au jour où j'ai pété les plombs et où, justement, le 8 novembre, j'ai pas dormi de la nuit, déjà. Alors, je vais même raconter ça, en fait. Donc, le week-end du 6-7 novembre, ça allait à peu près, et notamment, dès que mon ex était là, tout allait bien, j'étais plus en mode travail, on regardait des trucs sur Netflix, enfin quoi qu'est-ce. Par contre, dès qu'elle est partie le dimanche, j'ai quasiment eu la sensation que j'allais défaillir. C'est-à-dire que j'ai senti mes genoux. Je me suis assis en fait parce que je me suis dit oula, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je pourrais pas dire que j'ai senti un vertige, mais j'ai vraiment eu l'impression que boum, un énorme poids venait d'arriver. Et que valait mieux que m'asseoir parce que j'allais tomber par terre. Et là, j'étais super mal. Donc, heureusement, j'ai eu ma copine au téléphone et tout ça. Mais après, elle est allée se coucher. Je suis allé me coucher. J'ai fait une insomnie. J'ai pleuré par moments dans la nuit. Et le matin, j'avais pas envie de me lever. J'arrivais pas à me lever. Et j'ai envisagé le suicide. Alors, je dis juste envisager. C'est-à-dire, j'ai rien fait. C'est juste qu'à un moment, j'en avais tellement marre de pas dormir, de me ressasser tout ça, de me dire non mais j'ai pas envie d'aller, j'ai pas envie de me confronter à ces deux-là, j'ai pas envie. À un moment, je me suis dit, hey, si avec tout ce que j'ai dans ma pharmacie, il y a moyen que je me flingue. Et là, par contre, ça a été pour moi le réflexe qui m'a sauvé. Je me suis dit non, je vais pas faire ça. Je vais attendre 8 heures et appeler mon médecin traitant d'urgence pour voir ce qui se passe et pour voir s'il y a moyen de voilà, qui me file quelque chose ou quoi, parce que là, ça va pas du tout. Et donc, voilà. Et donc, ce jour-là, j'ai vu le médecin et qui m'a arrêté pendant 15 jours pour redescendre. Voilà.
Ok, merci Arnaud pour toute cette vulnérabilité, cette authenticité que tu nous partages au travers de ce récit. Enfin, tu vois, moi, émotionnellement, je suis très touchée par ce que tu dis. Donc, un certain nombre de troubles, en fait, que tu as évoqués, migraine, troubles du sommeil, boule au ventre, moins de liens et de connexion avec les autres, un état d'esprit plutôt tourné vers la négativité, plus d'agressivité qui se développe, un manque de concentration, justement, un sentiment d'harcèlement qui va vraiment monter crescendo, et puis jusqu'à ce jour où finalement ton corps il dit stop, si on peut le résumer comme ça. Donc, un arrêt de travail pour, voilà, poser. Est-ce que t'entendais au fond de toi une petite voix ou quelque chose qui te disait quelque chose chez toi qui n'était pas dans, on va mettre les guillemets, dans la normalité, c'est-à-dire qui était dans, tu étais dans un mode de fonctionnement qui n'était pas sain pour toi. Est-ce que tu as entendu une petite voix, quelque chose, tu vois, qui t'a, qui te laissait entendre en arrière-plan qu'il y avait quelque chose qui jouait, qui n'était pas sain pour toi? Ou est-ce que tu étais complètement en dehors de tout ça et que t'as pas, il n'y avait rien pour toi, il n'y avait pas de signe annonciateur, il n'y avait rien du tout que tu as perçu qui te disait que tu te mettais sur une route, un chemin qui était qui t'emmenait vers ce burn-out. Alors, je vais te laisser répondre à cette question et après je t'en poserai une autre en lien avec ton entourage, justement.
Alors, qui est de la petite voix, honnêtement, non. Je me suis laissé porter en me disant, ça va passer. C'est vraiment, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est vraiment au moment enfin, dès que j'ai eu cette sensation de harcèlement, que là, j'ai commencé, alors pas à me dire que je prenais une pente glissante, mais à me dire... Là, par contre, il faut que j'en parle à ma manager. Voilà. Mais pour moi, c'est le seul moment où une petite voix m'a dit, fais quelque chose. Sinon, tout le reste, je me disais, non, ça va passer. Quand j'aurai perdu mes 4 kilos, je vais peut-être arrêter de faire du sport le matin et le soir. Quand j'aurai fini ma formation, ben, j'aurai à nouveau des soirées. Enfin, voilà. Donc, non, 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 je me disais, ça va passer. Je veux dire, c'est pas grave. Voilà, jusque, ouais, c'est vraiment on va dire les 3, 5 semaines qui ont précédé le 8 novembre, où là, par contre, il y avait ce problème de harcèlement sur lequel, par contre, oui, je voulais agir. Mais le reste, non, c'était pas un problème. Hein.
Et du coup, je vais compléter ma question avec est-ce que ton entourage, alors que ce soit ta petite amie de l'époque ou ta famille, enfin ton entourage proche, lui t'a alerté en voyant que tu prenais justement cette pente glissante? Est-ce que tu as eu des signaux d'alerte de l'extérieur aujourd'hui avec le recul hein, que tu as sur la situation? Est-ce que tu as eu des signaux d'alerte extérieurs de la part de ton entourage ou même de la part peut-être d'un manager qui te dit, qui pouvait t'alerter sur le fait que voilà, il avait observé ton mode de fonctionnement actuel qui était plutôt vers la pente glissante?
Alors, justement, pas vraiment. Alors déjà, ma famille, faut l'écarter parce que ma famille est loin, puisque moi je suis girondin d'origine. Ma mère aujourd'hui, enfin ma mère, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui se serait aperçu de ça. Après voilà, mes cousins, cousines, enfin voilà, on se voit, mais enfin, je veux dire, il y a pas de. Ma famille n'aurait pas pu vraiment m'aider. Maintenant, au niveau de c'est pareil, au niveau managérial ou collègue. Bien, en fait, parce que c'est pareil, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner, mais en gros, c'est pareil, un des éléments qui a fait que j'ai commencé à me sentir mal et à péter les plombs, c'est qu'en octobre 2021, on devait revenir au travail, alors que ça faisait depuis le confinement qu'on était en télétravail, 2 à 3 jours par semaine. C'est justement là que j'ai senti que j'ai eu cette impression de harcèlement parce que j'étais confronté aux gens. Alors qu'avant, c'est pareil, j'avais le moyen de, entre guillemets, respirer quand il y avait un conflit, par exemple, bah, je mettais mute et puis au pire, je suivais la conversation, mais je redescendais. Alors qu'il y avait des trucs qui se disaient, j'étais en face ou à côté ou pas loin. Et puis je faisais non, 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 je suis pas d'accord. Et du coup, donc c'est pareil, personne n'aurait pu vraiment s'en apercevoir, étant donné que bah, je me suis tue déjà quand j'ai repris, et avant ça se voyait pas, j'étais en télétravail. Il y a que ma manager à la limite à qui je l'ai prévenu qu'il y avait ce sentiment de harcèlement et qu'elle m'a dit non mais essaye de voilà essaye voilà de pas rentrer dans leur jeu. Et c'est pareil, ma copine à l'époque, alors peut-être qu'elle m'a dit que j'étais trop, mais ça c'est un pattern chez moi, hein, c'est important aussi de le dire, je pense que ça vient du fait que je suis perfectionniste, je suis hyper exigeant et encore plus, beaucoup trop avec moi-même. Et je me dis que, je pense, je me rappelle plus exactement, mais il me semble que effectivement mon ex, enfin ma copine à l'époque, avait peut-être dû me dire, non mais là, t'es peut-être un peu trop exigeant avec toi-même, relâche la pression, quoi. Mais non, parce que, voilà, y a eu ça, mais ça c'est pas non plus, genre c'était pas tous les week-ends ou tous les jours ou quoi, parce que, ben, dès que j'étais avec elle, j'arrivais à changer mon état d'esprit, sauf sur la fin où j'y arrivais plus trop. Enfin, une fois que c'était arrivé, ouais, j'étais quand même un peu plus apathique, on va dire. Mais non, il n'y a pas eu de réelle prévention, à part ce que je disais par rapport à ma copine. Mais encore une fois, c'est pareil, je suis très adaptable, je suis très fort pour cacher quand ça va pas.
Ok, merci Arnaud. Ok, donc du coup, pas forcément de personnes autour de toi pour t'alerter. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est alerté qu'on entend ce que l'autre veut nous dire. Il peut nous le dire, mais on n'est pas forcément présent pour l'entendre et accepter justement. Donc c'est vrai que l'entourage, dans ce cas-là, ils sont aussi impuissants face à ça quand il est dans la capacité d'observer et d'alerter. Du coup, il y a eu cette fameuse nuit du 7 au 8 novembre 2021, où là, finalement, le 8 novembre 2021, c'était le trop-plein, il n'y avait plus de possibilité pour toi de te lever et d'aller au travail. Donc, médecin traitant, qui t'arrête pendant 15 jours. Du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu as commencé à mettre en place et comment ça s'est construit pour sortir de cette situation?
Alors, pour être tout à fait honnête, les 15 premiers jours, j'ai surtout mis en place la détente, on va dire, le repos et aussi des moments à moi, comme, parce qu'en plus, j'ai vraiment besoin de ça, j'ai vraiment besoin de moments à moi. Et donc, je me suis mis à marcher, mais plus qu'avant. Maintenant, du coup, le truc, c'est que j'ai aussi, alors ça, c'est un pattern qui va revenir. Après, mais je me rappelle très bien que c'est pareil. Par contre, des fois, plus en fin de journée, bah du coup, je retombais dans une espèce de, je suis pas bien, nanana, et en plus, j'avais une espèce de culpabilité d'être comme ça, culpabilité de planter. Alors, c'était plus vis-à-vis de ma manager de l'époque que de l'équipe, parce que je vais être honnête, l'équipe, rien à péter. Maintenant, c'est pour, enfin, les membres de l'équipe déjà. Pour lesquels je me sentais pas, enfin, par lesquels je ne me sentais pas harcelé, ma manager et les utilisateurs. Et du coup, ben, du coup, le soir, souvent c'était voilà, fin d'après-midi, soirée, ben, je commençais à avoir cette espèce de oh, je suis pas bien, là, là, là. Et donc, ben, j'ai commencé à picoler. Mais c'était pas, voilà, j'étais pas encore sous médication, donc voilà, je prenais une bière, deux bières, trois bières, j'étais un peu éclaté, mais c'était pas non plus dramatique. Mais du coup, ces 2 semaines-là, ouais, c'était vraiment plus essayer de dormir déjà. Ensuite, essayer de reprendre aussi des routines. Mais essayer de me foutre la paix quand même. C'est-à-dire que voilà, quand je faisais pas de sport un jour, on me disait, ouais, mais bon, moi j'ai dormi. Et donc la marche et la détente. C'est-à-dire que par exemple, voilà, je regardais soit Netflix, soit un film, soit YouTube, soit je jouais. Je crois pas que je jouais beaucoup, mais à ce moment-là. Ah si, peut-être. Mais voilà, c'était vraiment dormir, marcher, se relaxer, se détendre. Voilà. Et picoler quand ça va pas.
Ok, donc ça a été les premières étapes en fait, on va dire sur les premiers 15 jours, ça a été justement de prendre du temps pour toi, pour te reposer, et puis commencer à te régénérer, si je peux utiliser ce mot-là, et en même temps avec on va pas parler d'addiction parce qu'on n'en était peut-être pas encore là par rapport à ce que tu dis, mais un besoin de te plonger dans un petit peu d'alcool quand le soir, en fin de journée, tu te sentais beaucoup moins bien. D'ailleurs, Juste, il y a un épisode sur la chaîne de podcast de mon expérience chez les alcooliques anonymes. Alors, sachant que cette expérience-là, je l'ai faite non pas parce que moi, j'étais alcoolique et je ne porte pas de jugement sur les personnes qui ont subi cette addiction ou d'autres addictions, mais juste si vous voulez écouter l'expérience que j'ai vécue au travers de ces groupes d'entraide, eh bien, il y a un épisode de podcast disponible sur ma chaîne de podcast. Voilà, c'est un petit aparté. Si ça peut aider des personnes, eh bien, tant mieux. OK, et du coup, les étapes suivantes, ça a été lesquelles pour justement que tu sortes de cette situation de burn-out?
Alors, je vais justement essayer d'être détaillé, sans trop détailler non plus, mais alors, donc il y a eu ces 15 premiers jours. Et il faut savoir que à l'issue de ces 15 premiers jours, on arrive le vendredi, donc 3 jours avant la fin, et là, ça y est, ça recommence. Je recommence à avoir la boule au ventre, je commence à pas me sentir bien, je commence à pas avoir envie. Le samedi, je suis pas bien. Mais heureusement, ma copine est là, donc moi, ça me... Mais dès qu'elle est plus là, je suis pas bien. Et là, je me souviens très bien, j'ai picolé ce soir-là. Et le lendemain, ben, alors j'ai dormi, enfin, dormi entre guillemets. J'étais défoncé par l'alcool, du coup j'ai dormi, si on peut appeler ça dormir. Mais je me suis réveillé, je sais plus, vers 3 ou 4 heures du matin, et j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Donc là, je retourne chez le médecin traitant, je me refais arrêter 15 jours. Je mets pas grand-chose en place de plus. Par contre, j'essaye de trouver, sur les conseils de mon médecin traitant, un psychothérapeute que je finis par trouver à la fin de ces 15 jours, sauf que même topo, plus je me rapproche de la fin, moins je vais bien, plus je picole, etc. machin. Et donc là, je reviens voir le médecin traitant qui me dit, je peux plus, là, par contre, voilà, je vais quand même vous arrêter, mais surtout, je vais vous donner rendez-vous. Enfin, je vais vous voilà, donner une ordonnance pour aller voir un psychiatre. Et il me fait faire un test, alors que j'ai jamais vu, hein, mais où il me pose des questions. Et en gros, il s'avère que j'ai une dépression modérée. Et c'est à partir de là, du coup, que d'une part, je suis suivi par un psychiatre qui valide le diagnostic de dépression, qui me met donc sous anxiolytique et sous antidépresseur. Et alors, le premier anxiolytique, c'était le Xanax, et je suis intolérant au Xanax, donc il a fallu que je change. Parce que alors, le Xanax me faisait l'effet inverse de ce que ça aurait dû faire. Et je commence un suivi avec une psychothérapeute à hauteur d'une séance par semaine. Sauf que, du coup, même si je commence lentement à remonter la pente, c'est dur. C'est super dur. Et là, j'en suis à un stade où j'ai plus vraiment de routine. Où je passe mon temps, et notamment le Xanax n'a pas aidé, puisque au mois de décembre 2021, quand j'étais sous Xanax, vraiment, je passais mes jours et mes nuits à essayer de dormir. Donc du coup, en gros, j'allais me coucher, je vois, il était 1 h du matin, je dormais jusqu'à 3 h, j'arrivais plus à dormir, à 4 h 30 j'en avais marre, j'allais regarder Netflix, je m'endormais sur le canapé vers 5 ou 6 h, je me réveillais à 7 h, là je me disais, oh tiens, j'allais jouer un peu, enfin bref. D'ailleurs, j'avais pas joué parce que c'était à l'époque. Et par contre, donc à côté de ça, donc, je change de médicament, ça commence à aller mieux à ce niveau, au niveau du sommeil. Par contre, je m'enfonce à regarder des trucs de plus en plus, je te loue. Et ouais, on va dire des trucs qui peuvent avoir des triggers. Mais comme, je pense que comme mon traitement m'insensibilisait, alors après, ça, c'est moi qui donne une explication, j'en sais rien. Mais j'allais de plus en plus dans la noirceur, en fait. Mais ça, c'était quand j'étais chez moi, parce qu'à côté de ça, je continuais à marcher, je continuais à voir ma copine. Justement, quand je marchais, j'allais la voir, puisqu'elle habitait pas loin. Mais dès que j'étais chez moi, j'étais souvent en noir, en train de regarder YouTube, Netflix. Et puis, alors, soit ça a commencé par des trucs, des récits d'affaires criminelles. Ensuite, ça a été plus des trucs sur des tueurs en série. Et puis après, j'ai commencé à creuser et à aller dans le... On va dire l'horreur sur Internet, ou les trucs bizarres qu'on peut voir sur Internet, ou même les faits divers sur Internet. Jusqu'à ce qu'un jour, et ça je crois qu'on est en février hein, 2022, hein, février-mars, entre-temps je m'étais mis... Non, non, je dis une bêtise, non, non, c'est début de l'année. On est début janvier, et là elle me dit, je vois que vous êtes, je sais que vous êtes curieux, et je pense que ça vous fait du bien, Mais vous vous rendez pas compte, mais ça vous plombe en fait. Ça va pas vous aider à aller mieux. Elle me dit, vous pourriez pas plutôt regarder des trucs un peu plus gays, plus marrants, plus. Je lui fais, bah ouais, mais enfin avec ma copine, quand on se voit, on regarde Friends, on regarde un autre truc qui est marrant. Elle me dit, oui, mais justement, je parle pas quand vous êtes pas, je parle quand vous êtes tout seul. Et donc je lui fais, ok, ben bah, j'ai peut-être une idée. Et c'est là que je me suis mis à jouer à un jeu qui est type manga, très coloré, très mignon. Enfin, j'ai d'abord commencé sur le téléphone, puis sur la console. Et ça, mine de rien, c'est ce qui m'a quand même ramené vers la lumière, j'ai envie de dire, même si la métaphore peut choquer certains et certaines. Mais vraiment, c'est ce jeu, pour moi, qui m'a permis de. Alors, par contre, j'y passais entre janvier et mars-avril, j'y ai passé beaucoup de temps. Mais du coup, je passais moins de temps sur des contenus chelous, et du coup, ça m'a permis quand même de remonter la pente. Le truc, c'est que, et c'est pareil, je commençais aussi à remettre de bonnes habitudes en place. Donc, par exemple, je m'étais remis à faire du sport, à faire du fitness, par exemple, ou à courir. Voilà, là, on en arrive à, ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux. Pour l'instant, par contre, le traitement, on n'y touche pas. Et on arrive, alors peut-être que c'était une autre question, mais je me dis, j'anticipe parce que je suis encore dans l'histoire. On en arrive à fin mai 2022, j'allais reprendre le travail le 7 juin en temps partiel thérapeutique pour voir déjà si j'étais capable de, parce que j'avais un projet, hein. Je voulais reprendre, mais voilà, je voulais vraiment faire une mutation interne pour probablement quitter mon service ou aller chercher du travail ailleurs. C'est ça que je voulais voir. Je devais reprendre le 7 juin. Et là, la nuit du 31 mai au 1er juin, en fait, je me fais larguer. Et là, bah forcément, j'ai fait un gros plat. Je suis allé voir, j'ai pris un rendez-vous d'urgence avec mon psychiatre la semaine qui a suivi, en pleurs. Et du coup, j'ai été prolongé de 15 jours jusqu'au 20 ou 21 juin, je sais plus. Je crois que c'était le 20 juin. Et ça a été très compliqué. C'est-à-dire que je pense que cette phase a limite été l'une des pires que j'ai connues depuis. Parce que bah, le seul support que j'avais à l'époque vraiment n'était plus là. Et donc c'est là que tout ce que j'avais mis en place avant, essayer de maintenir et tout ça, tout a explosé. Et j'ai commencé à picoler encore plus. En plus, avec les interactions médicamenteuses, je me suis aperçu que j'avais pas à boire beaucoup pour faire des blackouts et être défoncé, quoi, en fait. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, attention, hein, mais voilà. Ça me permettait de fuir, en fait, tout simplement. Et honnêtement, bah, depuis ce jour-là, hein, je me suis à nouveau réintéressé au développement personnel, à la spiritualité. Et c'est là que j'ai aussi, en m'apercevant que la psychothérapeute, autant elle m'avait vachement aidé avant, mais là, je voyais que c'était pas suffisant. Donc c'est là que j'ai commencé à suivre des gens, parce que par exemple c'est en juin que j'ai découvert Chloé Bloom, par exemple, et c'est parce que j'ai suivi Chloé Bloom que j'ai commencé à connaître d'autres gens et à justement essayer d'être inspiré pour remonter la pente. Et c'est à partir de là où justement j'ai essayé de me reconstruire comme j'ai pu. Et donc c'est là que j'ai commencé. Donc alors j'étais toujours suivi par la psychothérapeute et par le psychiatre, mais à côté je voyais une hypnothérapeute. J'ai aussi vu une thérapeute de réflexologie faciale, donc ça s'appelle le Dien Shan, je sais pas si tu connais. J'ai aussi essayé alors une thérapeute énergéticienne, mais ça faisait beaucoup, donc j'ai ça. Et j'ai aussi fait un stage au mois d'août 2022 de 5 jours du côté de Montpellier. Pour la méthode, enfin, avec la méthode cœur d'enfant, pour justement travailler sur l'enfant intérieur. Et depuis, entre ce moment-là, donc juin 2022 et le mois dernier, j'avais ces petites routines, c'est-à-dire que j'avais donc ma psychothérapeute toutes les semaines, je voyais mon hypnothérapeute tous les mois, la thérapeute de réflexologie faciale, je l'ai vue plusieurs fois pendant ces mois-là. Donc j'ai fait la retraite du mois d'août, mais après, entre septembre et mars, pendant 6 mois, tous les mois, j'avais un week-end C'était sur Vincennes cette fois-là, toujours de thérapie dans le cadre de cœur d'enfant. Et j'avais aussi tout le contenu que j'essayais de consommer à côté et qui m'a bien aidé quand même à ne pas descendre plus bas. Mais par contre, je peux encore le dire aujourd'hui, ça me permettait de remonter, mais super lentement. Et donc jusqu'au mois dernier où j'ai dû, malheureusement, là je suis vraiment au chômage et en fait je vais avoir un délai de carence de 6 mois. Donc là, je suis en mode réduction de budget, hein, restriction budgétaire. Donc là, je ne vois plus, je ne voyais plus. Enfin, en gros, j'ai arrêté de voir la psychothérapeute en attendant un sujet, parce que j'ai fait une retraite chamanique aussi. Et j'ai arrêté de voir la réflexologie faciale. En fait, je ne vois plus que l'hypnothérapeute pour l'instant, en gros, et une fois par mois. Par contre, je continue aussi à m'inspirer, à suivre des programmes sur Internet. Sachant que, comme je l'ai dit, je vais faire une formation à la rentrée. Je commence aussi à réfléchir sur déménager, parce qu'en fait, ma région natale me manque. Donc, ça sera une bonne solution aussi pour éviter de finir à la rue, parce que j'ai personne, enfin, je pourrais avoir des gens, mais j'ai pas envie de squatter chez des gens si je suis en difficulté, et j'ai pas envie d'attendre de plus avoir de sous pour être, enfin, pour me dire, oh, je vais peut-être faire quelque chose. Donc, non, je pense que je vais anticiper qu'à la rentrée, je vais déménager. Mais une chose est sûre, c'est que je suis, honnêtement, je dois être à 10 ou 15% de ce que j'étais avant. Et encore, j'ai l'impression que depuis quelques jours, je suis enfin capable de remettre doucement des petits rituels dans ma vie, d'arriver à mieux me concentrer. Mais ça date d'il y a quelques jours. Et je sais que là, il va falloir que j'y aille marche par marche, quoi. Parce que ça aussi, le problème, c'est que je suis perfectionniste. Et du coup, en plus, ça va me faire m'auto-flageller. Mais il y a une semaine, j'ai fait une crise d'angoisse assez énorme parce qu'à un moment, je voyais le haut de l'escalier, je me disais, j'y arriverai. Et sauf que c'est une amie, pour le coup, parce que là, je me suis bien entouré aussi ces derniers mois, de par voilà, les communautés dans lesquelles je suis entouré de personnes vachement bienveillantes et qui m'ont et donc les personnes m'ont dit, non mais c'est normal ce qui t'arrive, donc c'est normal. Enfin, arrête de t'auto-flageller parce que ça va juste te faire aller plus moins vite. Mais c'est pareil, c'est ouais, c'est pas simple. Et donc voilà, donc là j'ai l'impression, et ça fait 3-4 jours, donc je vais pas mettre un avis définitif, mais j'ai l'impression que j'en suis enfin arrivé à un moment où j'arrive à me retrouver enfin. Mais ça fait bien 1 an et demi que c'est une horreur. Enfin, que ouais, c'est pas évident. Alors, je dis pas que tout a été mauvais, hein, je suis pas passé. Mais une chose est sûre, c'est que autant je pense, je pourrais pas dire j'ai vécu un enfer. Par moments, oui, mais par contre, je sais que c'est 1 an et demi, malgré l'enfance que j'ai eue, j'ai l'impression que c'est l'année et demie la pire de ma vie.
Déjà, merci pour tout ça, parce que je sais que c'est jamais évident et en même temps, c'était une volonté aussi de ta part que de partager sur ce sujet-là. Donc, l'idée n'est pas de te faire revivre ce que tu as vécu, mais ça a été un choix pour toi que d'en parler. Et donc, pour ça, je te remercie. Moi, je salue quand même, si je peux me permettre, ta capacité à rebondir et je dirais même ta résilience, parce qu'au travers de tout ce que tu nous partages, il y a quand même eu des sacrés moments où, ouais, tu as peut-être touché le fond, mais tu as toujours trouvé, peu importe la manière, des ressources pour t'accrocher et refaire surface. Donc, bravo pour ça. Là, tu nous disais qu'effectivement, ce qui a été mis en place, c'est un accompagnement finalement en thérapie, hein, avec une psychothérapeute et puis un psychiatre qui te suit pour assurer la médication que toi, tu estimes nécessaire avec ce psychiatre. Voilà, d'autres praticiens également qui viennent soutenir finalement aussi le travail de thérapie que tu as mis en place. Et oui, j'ai envie de dire, tu parles d'un an et demi, effectivement, par rapport à tout ce que tu dis et par rapport à ton enfance, forcément, voilà, c'est normal, effectivement, de vivre ce que tu vis. Et du coup, aujourd'hui, alors tu y as un petit peu répondu, c'est où est-ce que tu en es? Alors, on va essayer d'être hyper synthétique dans la réponse, si tu veux bien. C'est où est-ce que tu en es? Donc, si je résume déjà, temporairement, tu as mis de côté la psychothérapie Mais par rapport aux problématiques, on va dire, financières que tu évoques, qui sont temporaires, avec la volonté certainement de reprendre par la suite quand la situation se sera stabilisée, tu as quand même gardé l'hypnothérapeute, enfin, la praticienne en hypnose pour te soutenir, tu as toujours tes rendez-vous avec le psychiatre. Ok, donc ça d'un point de vue, on va dire, accompagnement, avec cette volonté aussi de te lancer dans une formation à la rentrée, qui est une formation pour devenir coach, si j'ai bien compris. Et puis, tous les soutiens que tu peux trouver extérieurs, qui sont liés aux réseaux sociaux par rapport aux, eh bien, à différentes personnes qui exercent dans le métier du bien-être, par rapport aux communautés dans lesquelles tu t'es intégré et qui viennent aussi te soutenir quand c'est nécessaire pour toi. Mais du coup, aujourd'hui, tu en es là, et même je vais aller plus loin, c'est comment tu te projettes, toi, sur l'étape d'après?
Alors je vais essayer d'être synthétique. Mais en gros, moi, mon idée justement pour aller de l'avant et continuer, c'est déjà, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est déjà de créer mon podcast d'ici à cet été, enfin voilà, d'ici à la rentrée en fait, parce que mon idée, c'est vraiment déjà de créer un podcast, alors sûrement dans lequel je parlerai de bien-être, de développement personnel, mais aussi de ma vie en fait. C'est pour ça que l'exercice d'aujourd'hui, il est très bien parce que c'est aussi un exercice que j'ai l'intention de faire dans mon propre podcast. Déjà, d'une, pour pouvoir commencer à être connu, entre guillemets, enfin voilà, avoir des gens qui me suivent, et donc utiliser aussi les réseaux sociaux pour commencer à justement familiariser les gens, sachant que je compte aussi faire une espèce de journal de bord pendant ma formation sur mon podcast et sur les réseaux sociaux sur ma formation de coach. Ce que j'ai appris, comment je le dis, etc. Mon idée étant forcément d'avoir déjà une espèce de communauté, alors je dis communauté, mais je veux dire, même si c'est 12 personnes, c'est déjà très bien, qui me suit pour déjà, parce que je sais que pendant ma formation, qui dure 7 mois, je vais devoir, pour avoir la certification, en parallèle, coacher 3 personnes de 10 à 12 séances de 1 heure à 1 heure et demie. Donc, bah, si j'ai déjà des gens à qui je pourrais demander, voilà, je voudrais des cobayes entre guillemets pour faire du coaching avec eux gratuit. Bah, c'est toujours mieux si c'est des gens qui me suivent entre guillemets ou en tout cas qui me connaissent par ces biais-là que je connais pas du tout parce que je sais que c'est pareil, c'est toujours mieux de ne pas connaître les gens. Alors après, je pourrais toujours voir avec l'entourage et des amis d'amis, mais je me dis c'est pas mal comme ça. Donc et mon objectif, c'est vraiment de m'installer en libéral. Donc plus, je pense, du côté de la Gironde et pas ici. En plus, il y a beaucoup trop de concurrence ici, je pense. Mais enfin, en Île-de-France, je veux dire. Mais voilà, c'est comme ça que je me projette aujourd'hui. Et évidemment, par contre, c'est pareil. Je n'ai pas dit non. Je ne dis pas non. J'ai pas dit un stop définitif à la psychothérapie. Et en ce qui concerne, parce que j'en ai pas parlé, en ce qui concerne le suivi avec le psychiatre, ben mon but c'est de, par contre, de descendre petit à petit. Et pour information, après réduction des anxiolytiques, je les ai finalement arrêtés fin mars. Alors ça a fait que j'ai passé 2 mois de merde en étant devenu insomniaque. C'est pour ça que je considère que là aujourd'hui, je me suis vraiment relevé. Normalement, alors, le dernier rendez-vous. Il m'a dit que peut-être qu'on verrait pour réduire les antidépresseurs à partir de la prochaine fois que je le vois, c'est-à-dire dans 15 jours, je crois, un truc comme ça. Voilà.
Moi, j'entends au travers de ce que tu dis plutôt un message d'espoir. J'ai envie de le dire comme ça. Quelque chose de positif. Parce que déjà, tu parles d'arrêter les. Enfin, tu as déjà arrêté un médicament et tu as la passe d'arrêter un deuxième. Quand bien même derrière, il y a quelques moments peut-être un petit peu plus difficiles, mais qui sont normaux aussi et qui sont, voilà, qui sont un passage pour se libérer, on va dire, de cette médication. Et puis, j'entends aussi une belle projection de l'avant avec cette formation de coach qui arrive et qui te projette sur un nouvel avenir professionnel pour toi et aussi la création de ta chaîne de podcast, puisque comme tu l'as dit, nous, on s'est également connus au travers de la communauté du podcast. Donc, moi, je trouve que c'est un message positif que tu envoies, je dirais, au travers de tout ce que tu as déjà vécu et qui n'était pas toujours le plus joyeux pour toi, mais aujourd'hui, tu es dans une perspective plutôt positive qui te permet aussi de te tirer vers le haut, de voir un avenir meilleur pour toi et qui te donne envie, en fait, qui te stimule, qui te motive à aller de l'avant. On est OK là-dessus?
Alors oui, on est totalement OK. Et justement, c'est oui. Moi aussi, j'y vois de l'espoir. J'y vois aussi le fait que il y a aussi un après et un après qui en plus me voit, je pense, plus aligné avec qui je suis vraiment et ce que j'ai envie de faire que je ne l'étais avant. Et si j'avais pas eu ce burn-out et cette dépression, et probablement aussi si j'avais pas eu la rupture, j'aurais pas suivi toutes ces personnes, j'aurais pas eu tous ces messages, j'aurais pas eu, et j'en serais pas là aujourd'hui. Donc pour le coup, je dis pas que c'était génial, mais j'en ressors grandi. Et oui, justement, aujourd'hui j'ai beaucoup d'espoir, et j'essaye aussi de le communiquer à ma façon.
Ouais, tu le partages aux autres, quoi, en montrant que oui, on peut toucher le fond de la piscine, mais en même temps, on peut aussi remonter à sa surface parce qu'on a aussi des ressources en nous, qui, à un moment donné, sont aussi là pour nous aider. Et on a aussi des ressources autour de nous qui sont des points d'appui qui vont nous permettre d'aller de l'avant, effectivement. Écoute Arnaud, je te remercie vraiment pour ton authenticité, pour toute cette vulnérabilité que tu nous as partagée, d'avoir eu le courage de venir raconter ton histoire par rapport à ce ou ces moments de vie. Donc, merci pour ça, vraiment. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite et vraiment, de toute façon, on va continuer, nous, en parallèle, dans cette communauté de podcasteurs et de podcasteuses. À communiquer. Donc, vraiment, je te souhaite un bel avenir et puis, merci d'envoyer ce message aussi d'espoir à toutes les personnes qui pourront être un jour, peut-être, parce que tout le monde peut être touché par le burn-out. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de métier, il n'y a pas, c'est vraiment, voilà, n'importe qui, entre guillemets. Alors, il y a des caractéristiques, hein, qui vont faire va y avoir des personnes peut-être plus facilement sujettes à ce type d'événement, mais que l'on soit chef d'entreprise, PDG ou qu'on le soit salarié, employé, n'importe qui peut être impacté par ce genre de choses. Et je pense que c'est important effectivement de le partager, de montrer qu'il y a des possibilités de s'en sortir parce qu'il y en a, et il y en a plusieurs. Important de savoir aussi demander de l'aide quand on est dans cette situation. Et c'est pas toujours facile d'aller chercher de l'aide. Et c'est là où notre entourage peut être aussi un excellent soutien. Donc, merci pour ce moment. Et merci de montrer que c'est possible. Et moi, je te souhaite le meilleur pour la suite.
Écoute, merci Katia et merci beaucoup aussi de m'avoir laissé cette opportunité de m'exprimer parce que je voudrais juste ajouter un tout petit truc. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je m'exprime aussi aujourd'hui avec toi, c'est parce que non seulement on peut s'en sortir, mais surtout ça existe. Et je dis ça existe pour la simple et bonne raison, c'est que avant que ça n'arrive, je pensais que c'était du pipeau. Parce que j'ai connu personne qui a traversé ça et c'est pas un domaine qui m'intéressait spécialement. Et du coup, il y a une seule personne que je connaissais qui a un poil dans la main, et du coup, je me disais, voilà, surtout pour y aller taffer, et puis c'est tout, quoi, voilà. Et donc, en ce qui concerne cette personne, je sais pas si c'était simulé ou si c'était vrai, mais ça existe, vraiment. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je voulais m'exprimer. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres non plus. Même si vous êtes, voilà, comme tu le disais, aussi fort que vous soyez, ça veut rien dire. Donc voilà. Et encore une fois, merci Katia de m'avoir laissé m'exprimer.
Merci à toi Arnaud et puis ben, on va souhaiter une belle journée. Au revoir Arnaud, belle journée à tous.